Le SNCL, le salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Immo et Radio Territoria en simultané. Nous sommes durant les trois jours à Paris Expo, porte de Versailles, pour couvrir avec nos équipes le Salon des maires et des collectivités locales. Vous le savez, c'est un seul et même endroit qui réunit le plus grand nombre d'élus et d'acteurs des territoires. Et nous allons tout de suite évoquer un sujet important, la façon dont il est possible de réinvestir le bâti existant et valoriser le patrimoine avec nos quatre invités qui sont présents sur notre plateau. On va commencer par les dames, si vous voulez bien, messieurs. Christine Lecomte, bonjour Christine. Christine,
bonjour.
Vous êtes présidente de l'Ordre national des architectes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vera Lizar Zaburu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du programme ACV chez AL, donc Action Logement.
Oui.
Et nous avons également le plaisir d'avoir deux maires sur le plateau. Jean-Marc Veissouz-Fort, maire de Cahors. Bonjour, monsieur
bonjour.
Le maire. Et Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
D'abord, comment allez-vous tous ?
Très bien.
Vous venez de sortir d'une grande table ronde. Comment s'est passée la table ronde ? Qui veut prendre la parole ? Monsieur le maire de Dole ?
Oui, très bien. Non, table ronde intéressante. Les grandes idées qu'on se fait d'un centre ancien.
Oui.
Comment il peut vivre aujourd'hui.
Donc ça a été. Est-ce qu'il y a eu énormément de questions sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu un intérêt grandissant, en tout cas ?
Il y a un intérêt grandissant. Et puis l'opération nationale Cœur de Ville fait bouger tout ça, forcément. Et puis... volonté de réinvestir les centres-villes, la question de l'utilisation du foncier dans un territoire. Donc oui, il y a la question de la transition écologique aussi. Donc tout cela fait que forcément ces questions sont pleinement d'actualité.
Jean-Marc Veissouz.
Moi j'étais heureux d'abord de rencontrer mon collègue maire parce qu'on peut toujours échanger, mais je suis aussi très heureux de rencontrer la présidente nationale de l'Ordre des architectes parce que je crois que demain la réponse sera territoriale et sera avec les acteurs que nous avons sur place. Nous sommes face à un défi qui est considérable. C'est-à-dire inventer finalement un nouveau mode d'habiter, un nouveau mode de développement, de nouvelles formes urbaines. Ça ne se fera pas sans douleur. On sait qu'aujourd'hui, on a ce grand écart entre finalement des secteurs très denses avec du logement qui est aujourd'hui remis en cause et puis cet habitat pavillonnaire, individuel, sur le territoire du Grand Cahors, un habitat moyen consomme 2000 mètres carrés. Donc on peut imaginer qu'on ne pourra pas longtemps continuer comme ça. Il faut qu'on garde des territoires attractifs. Il faut qu'on apporte des réponses à ceux, et ils sont nombreux, qui veulent venir aujourd'hui habiter sur nos territoires. Et pour cela, il faut pouvoir travailler tous ensemble. Les élus ont besoin d'ingénierie, de technicité. Ils ont besoin aussi de faire partager la stratégie qui est la leur. Et donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ces moments où on se rencontre, on discute, on échange, on apprend. Et on peut demain mieux apporter des réponses à nos concitoyens.
De quelle façon le paysage urbain, voire l'agglomération, les agglomérations en tout cas, ont changé depuis la Covid, selon vous ? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins ? Est-ce que les Français attendent de nouvelles choses ? Je m'adresse peut-être au maire d'abord.
Mais, je l'évoquais sur la table ronde, sur des prises de parole. On est face peut-être à une forme, pour moi, un peu de contradiction très récente, mais qui peut trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on sort d'une épidémie avec plusieurs confinements.
Oui.
Et donc, la question de l'espace extérieur est quand même un vrai sujet.
Tout à fait.
On voit bien dans certaines villes, notamment à Paris, les gens qui ont dû être confinés, quand même très différents d'espaces ruraux, comme dans le Jura chez moi, où beaucoup de personnes ont leur maison avec un espace extérieur et ont vécu le confinement très différemment.
Ça, c'est vrai, je le confirme.
Voilà. Donc, dans les centres-villes, même dans les villes, il y a une volonté, enfin un peu partout, par les différentes lois actuelles ou très récentes, de densification.
Oui.
Et donc, toute la question, c'est comment on a quand même un peu d'espace extérieur et une densification de l'espace bâti. Hein ? Et on voit bien, je peux vous dire qu'on était en différentes assemblées des maires ces temps derniers, notamment l'assemblée des maires du département. Il y a une petite bronca sur la question du foncier en ce moment. L'artificialisation des sols. Donc il faut qu'on arrive à trouver la nécessité de limiter l'étalement urbain, qui est un vrai sujet. On sait tous que la population mondiale augmente, qu'il faut des espaces agricoles, il faut nourrir toute cette population, et on ne peut pas construire. D'un autre côté, si on densifie,
et oui, on est obligé.
Comment on garantit un peu d'espace extérieur, surtout dans le contexte qu'on vient d'avoir lié à l'épidémie. Donc moi, je vois bien certaines personnes aujourd'hui L'immeuble, l'habitat ancien, oui, mais quel espace extérieur dans cette affaire ? Voilà, c'est des sujets.
Très bien. Jean-Marc ?
On a quelques enquêtes à notre disposition, assez récentes. D'abord, il faut savoir qu'il y a un tiers des habitants de villes de plus de 100 000 habitants qui veulent changer de lieu de vie. Cette même enquête démontre qu'à Cahors, c'est 9%. En moyenne, c'est 21%. Quel est le critère de choix qui fait que pourquoi vous voulez changer de vie ? Premier élément, la tranquillité. Deuxième, le retour à la nature. Donc déjà, c'est posé. On sait que nos territoires, demain, vont être sollicités. Donc la difficulté qui est la nôtre, parce qu'on ne veut pas vous en douter dans nos villes moyennes, qui sont en capacité aujourd'hui d'accueillir de la population, parce qu'on a des équipements de services de qualité. On a de la place. On a dans nos écoles... Aujourd'hui, 20 élèves, c'est quand même beaucoup plus dans les métropoles. On a 50% de plus de places en accueil collectif pour dans les crèches ou dans les assistantes maternelles. Donc on a cette capacité de répondre, mais on ne veut pas se retrouver dans les difficultés dans lesquelles sont les métropoles aujourd'hui. Et puis évidemment, on veut répondre au défi qui est devant nous, qui est le défi climatique. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on fait, comment on travaille cette qualité d'habiter, comment on la renforce et comment dans le même temps, on remet en cause tout un modèle qui était tellement si simple, c'est-à-dire qu'on avait de l'espace, on faisait de la voirie, on faisait des réseaux, on avait des terrains pas chers, la fiscalité était moins chère, et donc les gens venaient habiter. Enfin, on est en train quand même de s'apercevoir aujourd'hui que ça a quelques défauts, parce que malheureusement, quand on n'a pas réfléchi à des échelles de quartier, on a renforcé la voiture, c'est-à-dire les déplacements, et là, c'est totalement contraire aux enjeux qui se posent devant nous demain. Donc, c'est là-dessus qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin de sensibiliser. Et la place, me semble-t-il, des élus, elle est fondamentale, à la fois parce que la réponse, elle sera territoriale, et puis à la fois parce qu'il va falloir amener la population. Quand vous êtes dans des moments de transition, c'est brutal, c'est compliqué. Moi, je vois les maires, on vient d'arrêter le PLUI, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Surtout quand, en plus, l'État veut s'en mêler, après avoir abandonné quand même cette compétence, il faut le dire. Je rappelle quand même que tout cet étalement urbain, c'est quand l'État avait la compétence. Et aujourd'hui, se dire, bon, je vous laisse faire, parce que au moins vous avez cette relation avec la population, vous allez peut-être y arriver. Mais on vous fait un corset législatif et réglementaire qui est quasi insupportable et qui n'est pas du tout adapté à la diversité de nos territoires. Qu'on nous laisse travailler, qu'on nous accompagne, qu'on nous sensibilise. Et peut-être demain, on a une chance de pouvoir répondre aux enjeux qui sont devant nous.
Oui, très rapidement, et après, on donnera simplement. La parole. Ce qui vient d'être dit, avec le PLUI qui a été adopté chez nous il y a un an et demi, deux ans, là, moi, dans 6-7 ans, je n'ai plus de foncier. Tout sera construit. Donc, de toute façon, il faut bien prendre ça en compte. 3-4 OAP sur la ville, après, c'est fini. Hein. Après, ça sera... voilà. Donc, la verticalité, elle va être contrainte, forcément.
Alors, il y a aussi un autre sujet aussi qui est très important, c'est cette ambition de redynamiser le centre des villes moyennes. On va en parler avec vous, Véralitza Zaburu. Alors, vous êtes directrice du programme Action Cœur de Ville pour Action Logement. Déjà, vous nous rappelez ce que c'est que Action Cœur de Ville ?
Oui, Action Cœur de Ville, c'est un programme national lancé par l'État en 2018 et dans lequel le réseau, le groupe Action Logement s'est très tôt mobilisé puisque nous sommes un des principaux partenaires financeurs du programme et nous intervenons très très spécifiquement sur le volet habitat de ce programme avec l'idée d'accompagner les élus dans la production d'une offre de logement nouvelle. Donc on est aux côtés donc, de l'État dans cette intervention et surtout des collectivités puisque l'ensemble de notre réseau et nous sommes présents sur tout le territoire national métropolitain et ultramarin pour accompagner effectivement le développement d'une offre qualitative et avec une perspective qui est pour nous très très forte et qui a aussi défini les contours de notre intervention, c'est que cette intervention, on l'a fait à la demande de l'État, on y croit, pour nous c'est une politique qui fait sens hein, d'aménagement global du territoire, mais c'est aussi une mission qui doit in fine servir la mission première d'Action Logement qui est de loger les salariés et de répondre et de participer à la dynamique économique des territoires et des entreprises qui nous financent. Et à ce titre-là, on a eu très tôt, dès 2018, en fait, une réflexion sur qu'est-ce qu'on voulait financer, quel niveau d'ambition on voulait partager avec les élus, les 222 élus du programme, pour faire en sorte que les logements que nous allions produire sur ces territoires suscitent l'intérêt des salariés, puisque on le sait, hein, ce sont des populations qui ne sont pas forcément captives et qui auraient tout aussi bien le loisir d'aller s'installer dans les périphéries.
L'idée, c'est de les attirer, en fait.
Exactement. Donc, on a eu cette réflexion sur la qualité d'habiter très tôt, qui a trouvé ensuite un écho tout à fait incroyable avec effectivement l'épisode assez assez incroyable que nous avons traversé effectivement de cette crise sanitaire.
Effectivement. Alors on va continuer à discuter de cela avec vous, mais c'était intéressant aussi d'avoir aussi Christine Lecomte qui est présidente de l'Ordre National des Architectes. Christine, vous avez été élue récemment à la tête de l'Ordre National des Architectes. D'abord, c'est une responsabilité qui n'est pas forcément nouvelle pour vous, j'imagine.
Non, moi j'étais en Île-de-France avant, mais néanmoins je suis ravie d'être à l'échelle nationale parce que c'est pas une échelle métropolitaine, c'est une échelle où on se questionne sur l'équilibre des territoires. Et c'est vraiment fondamental aujourd'hui de se poser la question de tous nos territoires, de toutes nos villes. Et c'est vrai qu'Action Cœur de Ville et la question de ce qui se passe la post-Covid est extrêmement important pour nous parce que ça fait des années qu'on re-questionne auprès des pouvoirs publics la qualité du logement produit en estimant qu'on a perdu presque une pièce en 10 ans dans la construction neuve. Donc c'est extrêmement grave. Merci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des endroits où on est en surpeuplement dans des métropoles et des endroits où on est en sous-peuplement. Et ça, c'est le cas de 60% des pavillons de maisons individuelles aujourd'hui.
Vous n'avez pas la sensation qu'il y a un rééquilibrage depuis la Covid ? Est-ce que les gens quittent pourtant les grandes villes ?
C'est pour ça que derrière, le stress un peu des annonces qu'a pu faire la ministre sur la maison individuelle est un problème, il faut relativiser. On a encore aujourd'hui un parcours résidentiel qui peut se faire dans des maisons, etc. Seulement, il faut arrêter d'opposer les formes urbaines et il faut essayer de comprendre comment on habite. On n'est plus dans une politique du logement, on est dans une politique de l'habiter. Et habiter, c'est dans toutes les dimensions. Ça veut dire qu'on cherche aussi un lieu qui nous plaît, un lieu où on peut travailler, un lieu où il y a de la mobilité. Et cette dimension-là, elle touche les villes moyennes. Complètement. Parce qu'effectivement, on ne va pas réussir à faire venir des gens en cœur de ville des villes moyennes si on ne leur offre pas des qualités de vie qui soit supérieur finalement à ce qu'ils trouvent à l'extérieur en achetant un terrain qui ne coûte rien et en faisant construire une maison qui ne coûte pas grand chose, même si en fait c'est de l'obsolescence programmée. Et en plus, c'est extrêmement mauvais pour les finances de l'État et pour les finances des collectivités. Je ne sais pas si les élus le savent.
Je vais aller leur demander,
mais c'est de 5 à 7 fois plus cher pour une collectivité d'amener des services publics dans les zones d'étalement urbain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Donc la densité, elle n'est pas que là pour une question d'écologie. Elle n'est pas que là aussi pour ça. Elle est aussi parce qu'on a besoin d'une économie. On ne peut pas gaspiller trop. Et là, on a vraiment ce rapport-là. Et donc, le renforcement en fait, des typologies qui ne soient pas l'immeuble de logement extrêmement standard, ni la maison individuelle sur son terrain peut-être trop vaste, c'est ces typologies urbaines qui vont être la maison en bande, la maison de ville, l'habitat intermédiaire où on superpose des logements avec toujours les aspirations des Français, qui soient le calme, le confort, c'est extrêmement important, la proximité et les espaces extérieurs. Et ça, je pense que si on arrive à travailler tous ensemble, parce que finalement c'est ça
travail
aussi,
collectif,
c'est ça aussi qu'on voit aujourd'hui. C'est peut-être qu'il y a eu des relations distendues parce que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'intermédiaires. Moi je prône pour une relation extrêmement forte entre élus, partenaires et architectes pour justement aller vers ces formes urbaines qui feront la conjoncture entre aspiration des Français et aspiration écologique.
D'ailleurs votre position en tant qu'architecte, mais vous représentez aussi les architectes de France, on va dire, vous avez un regard essentiel sur la transformation du bâti. Vous dites d'ailleurs souvent, quand on vous donne la parole, vous dites que votre métier est en révolution et qu'il est surtout malmené, voire méprisé par l'État. Est-ce que cette sensation, elle est toujours actuelle ?
Alors, moi, je n'ai pas dit ça. On me fait dire ça.
J'ai lu ce qu'on m'a...
Donc, c'est une phrase sortie du contexte, pardonnez-moi.
C'est une phrase qui est un peu sortie du contexte.
D'accord, mais c'est bien de rétablir les choses.
Ce qui est très important, c'est de dire que je pense que dans la discipline de l'architecture, il y a des solutions pour répondre aux enjeux du siècle. Et si en fait aujourd'hui je suis heureuse d'être présidente à ce moment-là dans le siècle, c'est bien parce que je pense qu'il y a une vraie possibilité que cette discipline d'intérêt général vienne aider. Donc c'est pas du tout corporatiste. Bien sûr, il faut donner les moyens aux professionnels de travailler, mais enfin bon, on en parlait tout à l'heure avec les élus, c'est normal, tout le monde doit travailler. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une aspiration d'intérêt général et je suis persuadée qu'on n'a pas assez exploité les dimensions que ce métier offre et que cette discipline offre. Et là, il y a un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, voyez, on parle de logement. C'est-à-dire, tout le monde parle de logement, mais en fait, tout le monde parle d'architecture.
C'est vrai.
Sauf qu'on ne dit pas le mot. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement fort pour les élus locaux, Et pour moi, il y a un message qui est fort, c'est que les élus locaux doivent le porter au présidentiel. Il faut qu'on arrête d'avoir des débats qui ne soient pas sur la vie des Français. Et donc, c'est vrai que nous, on aimerait avoir ce partenariat pour que les élus locaux disent un petit peu, bah, écoutez, vous qui vous présentez au présidentiel, proposez-nous votre projet d'avenir et votre vision de l'aménagement du territoire et de la façon dont vous pensez qu'on va rééquilibrer la qualité de vie partout.
Alors, messieurs les élus, on va peut-être vous donner la parole puisque vous avez certainement des choses à dire. Monsieur le maire.
Je rebondis sur ce qu'a dit la présidente. C'est vrai que c'est pas toujours facile. On n'a pas une présidente d'une telle qualité dans chaque département quand même.
Ça, c'est vrai.
Reconnaître. Et on n'a pas toujours cette culture, en fait, de travailler ensemble. Il y a aussi la question qu'on se posait, c'est à quel moment on travaille ensemble,
quand même,
parce qu'on est souvent au bout du bout avec l'architecte. Moi, je évoqué avec elle, je crois à l'étude urbaine un petit peu avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une réflexion, on le sait, à l'échelle d'un quartier. On voit bien d'ailleurs que c'est pas du tout ce qu'on a fait. Hein. On a eu la politique du laisser-faire. Donc évidemment, sur les centres historiques, ça, on sait faire. Il y a Action Cœur de Ville. On a des outils aujourd'hui qui soient incitatifs, qui soient des outils d'ingénierie. Je pense qu'on doit le faire aussi à l'échelle de chacun des quartiers. C'est souvent ce qu'on a oublié en France, en fait. Je regardais pas si récemment le chiffre d'affaires, on parle beaucoup de commerce, le chiffre d'affaires tel qu'il était décomposé en France et en Allemagne, par exemple. En Allemagne, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers les centres-villes, un tiers les quartiers, un tiers la périphérie. Nous, c'est ou centre-ville ou périphérie. Les
Donc
quartiers
c'est eux
très,
qui ont tout compris, selon vous ?
Non, ce que
c'est
je
un modèle
dire,
à suivre
non, sur certains éléments, évidemment beaucoup, parce que je crois qu'ils ont, ils ont eu des réflexions, des aménagements à une autre échelle. Je ne sais pas si c'est l'effet de la décentralisation ou autre à un moment donné, mais je crois qu'ils ont pensé leur développement avec déjà un petit peu cette souci de dire on ne va quand même pas faire de l'étalement urbain, on est obligé d'avoir une certaine compacité. Et je pense qu'il faut quand même s'en inspirer, en tout cas d'avoir un équilibre entre, bon, il restera du pavillon, il restera de la périphérie, c'est une évidence, on ne reviendra pas en arrière. On va enfin revaloriser nos centres historiques. Enfin, je rappelle que c'est assez récent, hein, la Franche-Moche, comment on a tué nos villes, des vacances commerciales en centre-ville qui se retrouvaient à 20-25, enfin, quelque chose de terrible, quoi. Alors que c'est quand même l'identité, c'est le patrimoine. Quand vous allez faire du tourisme dans un autre pays, qu'est-ce que vous cherchez ? Le centre-ville. Mmh. Et nous, alors qu'on avait un patrimoine extraordinaire, on avait laissé tomber. Je crois que c'est Malraux qui disait les centres-villes, c'est les visages de la France, quoi. Mais c'est vrai, c'est notre identité, c'est notre histoire. On l'avait complètement oublié. Donc on a besoin, évidemment, de retravailler ça, mais je pense qu'on a aussi la nécessité, parce que le centre historique, il va pas suffire, hein, surtout s'il y a de la population qui arrive. Donc quand vous faites du développement, qu'on ait une idée du quartier, qu'on ait une étude urbaine et qu'on mixe à chaque fois l'habitat, mais le service. C'est vrai que c'est une hérésie. Enfin, moi, j'ai la chance, mais vraiment la chance, je peux vous dire, d'avoir l'hôpital en centre-ville. C'est ça qui m'a maintenu le reste. L'hôpital, c'est 1000 personnes qui viennent travailler par jour, 1000 personnes qui viennent voir les malades.
Surtout
après,
pour les habitants.
Après, vous pouvez
sûr.
Faire du commerce. Ouais, quand vous dites, ah ben, vous avez à 50 mètres, venez habiter en ville, vous allez avoir l'hôpital qui est à disposition, c'est pas la même chose. Quand aujourd'hui, on imagine des zéniths, des parcs d'exposition où vous allez forcément en voiture pour tous les événements culturels. Moi, je dis, c'est terminé. Les événements culturels, je le veux dans la ville.
Vous voulez pas un zénith, hein?
Moi, je ne veux pas des zéniths. Il y en a eu un, il s'y fait plus rien. Non, mais je vais prendre par exemple l'exemple de l'équipement culturel qui génère le plus de flux. Aujourd'hui, c'est le cinéma. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est le cinéma qui génère le plus de flux.
Oui.
Si j'avais laissé faire, on aurait un cinéma en périphérie. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Moi, j'ai dit à un moment donné, non, je veux du flux en centre-ville. On va se débrouiller, on va trouver des espaces.
Vous avez trouvé la place pour mettre votre cinéma?
On a trouvé une place où on était dans un ensemble de bâtiments qui était ancienne caserne militaire, où je me suis aperçu qu'il y avait un bâtiment qui avait été détruit. Et donc, je l'ai même remis à cet endroit-là. Eh ben, aujourd'hui, il est en plein centre-ville. C'est 200 000 période hors Covid, évidemment, qui viennent profiter de ce cinéma. Mais c'est la ville qui l'a porté.
Oui.
C'est la ville qui a décidé de l'architecture qu'on allait porter. Parce que c'est important d'avoir aussi la qualité.
Alors, pardonnez-moi, je sais qu'on a plein de choses à dire, mais il reste à peu près 2 minutes avant qu'on finalise cette rencontre. Jean-Baptiste Gagnou, je vous voyais, vous aviez envie de d'intervenir.
Oui, parce que, deux choses. Je pense
déjà,
que...
vous, votre cinéma, il est ouf.
Et justement. On attend de mettre le premier coup de pelle et il sera en centre-ville.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est bien, ça.
Bon, très bien. Donc, pas de cinéma en périphérie.
Et non, mais c'est exactement dans la même logique. Si on veut que les centres-villes
Évidemment.
Vivent, il ne faut pas mettre tout dans les périphéries à côté des zones commerciales. Un cinéma, jusqu'à maintenant, c'était où ? C'est dans les zones commerciales, à l'extérieur de la ville. Bon, donc quand on est des élus attachés à nos centres-villes, ben, on fait tout ce qu'on peut pour que justement le nouveau multiplex il soit au centre-ville. Ben, nous, il sera au centre-ville.
Et après,
il
faut avoir
dans,
de la place,
dans le périmètre de l'ORT hein, qui colle l'opération de restauration...
L'ORT, c'était le
opération de revitalisation.
Oui, ça a changé plusieurs fois de nom.
Merci
et de périmètre. Et donc, il est dans le périmètre cœur de ville. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, pareil, espace aquatique et sportif, on le refait au centre-ville, totalement aussi. Donc, flux de commerce, lycée, donc remettre des services aux abords de centre-ville. Et puis, dans la philosophie qu'on a évoquée tout à l'heure, bah, tout se décide au moment de la rédaction des PUI, hein, qu'on a parlé tout à l'heure du PSMV en centre historique. C'est là où on fixe le cap, c'est quand on fait le PLH aussi. C'est ces documents-là qui vont fixer concrètement les orientations dans un territoire. Et c'est vrai qu'on ne le fait jamais avec les architectes, ces documents.
Oui, oui. Vera.
Oui, notre, en fait, ce qui est très intéressant, et moi je remercie les
élus
qui sont présents aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien que là, il nous faut vraiment réfléchir sur des projets d'ensemble. Nous, on finance l'habitat, mais on a vraiment à cœur que ce nouvel habitat qu'on va pouvoir produire dans ces villes moyennes dans lesquelles aspirent un grand nombre de nos concitoyens aujourd'hui à s'installer, s'inscrive bien dans un projet d'ensemble qui réfléchit aussi bien à les problématiques de stationnement, d'équipement culturel et de commerce, puisque tout est lié au final. C'est-à-dire que les nouveaux habitants sont autant de nouveaux consommateurs de commerce et d'usagers des équipements que vous implantez dans vos centres-villes.
Christine Lecomte, je vous donne le mot de la fin.
Oh là,
allez-y.
Non, mais moi, je trouve que cette table ronde est extrêmement intéressante parce que on voit qu'il faut du courage politique. Et ce courage politique, on ne le valorise pas assez. Nous aussi, aujourd'hui, quand un architecte a un bon maître d'ouvrage, il est sur la bonne voie déjà pour faire un bon projet. Après, il faut que ça soit un bon architecte. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on est sur une bonne piste. On a vraiment quelque chose qui nous permet de travailler. Et là, aujourd'hui, quand j'entends les élus sur cette table ronde parler comme ça, je me dis, mais c'est génial. Ça veut dire qu'on est en train d'essaimer une parole qui permet ça. Après, il y a une petite chose dont on n'a pas parlé mais qui est concomitante, c'est qu'il va falloir travailler sur les centres-villes, mais il ne va pas falloir oublier les périphéries. Et ces périphéries, il va falloir les réparer d'une autre manière que celle des centres-villes, mais finalement avec la même confiance
et la même ambition.
Et la même ambition.
Effectivement.
Et là, ça fera en fait vraiment ville. Parce que finalement, ces territoires périphériques, pour l'instant, ce n'est pas des villes. C'est souvent des zones et ce n'est pas des villes. Et donc, on a vraiment un immense travail de coopération entre centre-ville et finalement territoire périphérique, qui est un autre enjeu et une autre ambition. Et c'est vrai que sur ces points-là, on a plein de choses à proposer. Mais effectivement, pour l'instant, on est sur Action Cœur de Ville. On s'attaquera au reste tous ensemble après, je crois.
Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes. Vera Lizard-Zaburu, directrice du programme Action Cœur de Ville chez Action Logement. Jean-Baptiste Gagnon, maire de Dole. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Et Jean-Marc Veissouz, fort maire de Cahors. Avec son accent, nous a enchanté cette table ronde. Merci beaucoup.
Merci à
vous quatre. Au revoir.
Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.